disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'on n'a pas raison. Ceci pour les électeurs de M. Sarkozy. Au revoir.
Il démarre fort, Sarko, et il doit bien dormir sur le grand yacht du milliardaire. Pour sa première décision, juste après son élection, chapeau le symbole. Partir en croisière sur un luxueux yacht en Méditerranée. Les riches sont confortés, ils ont élu un président qui, comme eux, aime le luxe et le fric. Les classes populaires sont invitées à rêver. Une first lady sur un yacht, non loin de la mer Égée. Mais c'est une subliminale Cecilia Jackie-Onassis qui va s'étaler pour eux dans les pages des journaux People, aux côtés d'un petit homme puissant et rablé. Un Nicolas Onassis Kennedy, quoi. Ah oui, au fait, rablé, hein. 1m68, comme Onassis. On a mal interprété ses attaques sur mai 68. C'est sa petite taille et son complexe qu'il a voulu liquider. Parlez de 1967 ou de 69, mais plus de 68, s'il vous plaît. Une chance pour nous remarquer. À la fin de son mandat, la retraite à 67 ans. On gagne une année. Bon, rêvez, électeur sarkozyste de base, devant ces images à la télé ou dans les magazines People, mais restez lucide. Pour vous, pour vos enfants, il n'y aura jamais de croisière sur un luxueux yacht privé en Méditerranée.
J'essaie de me tenir éloigné de toutes ces polémiques. Je ne vois pas où il y a de la polémique. Si vous reprenez les choses, je serai président de la République dans 8 jours. Il y a donc ces 8 jours où théoriquement j'aurais dû prendre du repos pour arriver aux responsabilités suprêmes de président de la République le plus apaisé possible. Au fond, je ne vais pas en prendre 8 jours, je vais en prendre 2,5. Je pense que personne ne peut le contester. Ensuite, je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite et 20 ans que je refuse. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. Vous savez, c'est pas une honte d'avoir travaillé dur, d'avoir créé un grand groupe, de donner de l'emploi. Il m'a invité sur son bateau, il aurait pu m'inviter dans une maison. Je vois pas où est la polémique. Je suis à Malte, dans un pays européen. Je vais vous dire une chose, j'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser.
Bonjour, Dany Mermet. Alors, moi, je voulais dire que si l'émission est objective, j'espère que tu passeras le message, et je le pense d'ailleurs, je ne pourrai pas l'écouter encore une fois puisque je serai au boulot. Par contre, je voudrais bien qu'il y ait une travail objectif et critique qui soit dit. Ce ne sont pas des manifestations anti-Sarkozy, ce sont des manifestations anti-démocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, il faut bien l'accepter. Or, parfois, il est difficile d'accepter l'échec, et je trouve ça grave que jamais personne ne dit « ce sont des manifestations anti-démocratie ». C'est-à-dire anti le devoir électoral qui a été fait. Maintenant, le devoir après élection, c'est d'accepter les élections, ce qui n'est pas simple, semble-t-il. Je le comprends, mais ça ne veut pas dire que ce sont des échecs personnels des personnes qui ont voté. C'est une histoire qu'il faut accepter, comme il y a des choses inacceptables dans la vie et d'autres qui sont bien pires que celles-ci, à mon avis. Ensuite, les vacances de Nicolas Sarkozy. Moi, je crois qu'il y en a bien d'autres qui prennent des vacances, qui sont bien pires que ça. Et comment voulez-vous être tranquille dans la vie si ce n'est pas sur un bateau perdu au milieu de la Méditerranée? Et je le félicite d'avoir choisi cette option, parce qu'après tout, peut-être qu'il nous reviendra encore plus en forme, en ayant vraiment coupé court pendant 2 jours sur toute cette histoire. Voilà, moi ça me met en colère parce que puisqu'on aime les femmes agressives, et ben après tout, pourquoi pas mon message. Et bonne journée Dany, et à bientôt, c'était Martine Duberry.
Ah, j'ai envie de dire merci. Merci. Un grand merci à tous ceux qui ont voté Sarkozy. Car ce matin, 8 mai, au marché, tout le monde parlait. Et enfin, nous, de gauche, vraiment de gauche, humainement de gauche, nous pouvons sortir du silence dans lequel nous étions enfermés depuis 26 ans. Et enfin, on nous entend. Alors, merci, merci, et vive l'espoir. Françoise, en Ardèche.
Afin d'être sûr que notre émission bien-aimée ne soit pas sucrée à la rentrée sous prétexte de programmes divers et variés, je propose à tous les auditeurs aimables de Là-bas si j'y suis d'appeler le répondeur et de dire vive Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy nous aime et nous l'aimons. Vive Nicolas Sarkozy. Voilà, comme ça au moins peut-être que l'émission continuera à la rentrée, on ne sait jamais des fois.
Naturellement, il y aura toujours 2-3 gauchistes de service pour hurler à la reprise en main à France Inter sous prétexte qu'un nouveau directeur des programmes a été nommé ce matin et qu'il n'y connaît rien à la radio. C'est vrai que Patrick Balkany n'a jamais fait de radio, mais en télé, il assure, hein, le Valois, il y a des caméras de surveillance partout. Non, je ne me fais aucun souci pour la liberté d'expression à France Inter. Tout à l'heure, j'ai croisé Daniel Mermet qui sortait du bureau du nouveau directeur des programmes. On s'est fait la bise comme si de rien n'était. Oui, en principe, je lui serre la main, mais là, c'était pas possible à cause des menottes. Je lui ai dit, salut Daniel, tout va bien? Il m'a répondu, mouuuuh. Il avait les lèvres légèrement tuméfiées, j'ai pas tout compris. Après, il a perdu connaissance, ils l'ont emmené au sous-sol. En interne, a priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements, à part les nominations de Thierry Roland à la direction de France Culture et de Pascal Sevran à RFI. Bon, pour sa part, le nouvel adjoint du président Cluzel, Jean-Kévin Perfitte, voudrait juste procéder à une réforme structurelle afin de réunifier les antennes publiques sous un sigle unique. L'ORTF, ça devrait s'appeler, c'est joli. Que vous dire d'autre sinon que Jean-Marc Sylvestre a été nommé délégué CGT, qui devrait donner un bon coup de pouce au dialogue social dans l'entreprise. Il y a aussi un nouveau directeur financier, un transfuge d'Endemol, l'ancienne société d'Arthur, super bien géré d'ailleurs, un car zéro peut nous le confirmer. Bon, pour le coup, il faut s'attendre à quelques répercussions sur le système de répartition salariale à France Inter. Je suis passé à côté de son bureau tout à l'heure, on est en train de livrer des boîtes. Mais bon, alors ce qui nous concerne, ce qui concerne le Fou du Roi, les quelques réaménagements annoncés relèvent de la simple finition. Moi, j'aime beaucoup le nouveau titre de l'émission, L'Oreille en coin, c'est moderne, c'est bien.
Selon la RTBF, dès dimanche soir, il y avait plus de 80% des plus de 65 ans qui avaient décidé de voter Nicolas Sarkozy. Alors moi, je me pose une question, c'est est-ce que tous les grands-parents, tous les grands-pères, toutes les grands-mères ont discuté avec leurs petits-enfants avant de décider de leur choisir un avenir sarkozyste de merde? Ce serait intéressant à savoir, parce que là, il y a, il me semble, une vraie fracture générationnelle. C'était Guillaume de Paris.
Allô, bonjour Daniel. Bon, ça, depuis deux jours, là, j'en ai marre d'entendre que les personnes âgées ont voté pour Sarkozy. Alors, j'aime autant vous dire que moi, j'ai 81 ans et j'ai trois de mes amis qui ont voté pour Ségolène et même encore plus à gauche au premier tour. Hein. Alors, j'en ai marre, surtout que j'ai vu à la télé qu'il y avait pas mal de petits cons qui acclamaient Sarkozy. Bon, allez, au revoir, et puis j'espère que vous continuerez longtemps votre émission. Salut, c'est Christiane de Paris. Au revoir.
Bonjour, Michel de Nice. Je suis en deuil, désespérément en deuil. J'ai 68 ans, je ne veux pas être mélangée avec tous ces vieux cons qui ont voté pour Sarko. Non. Moi, je suis pour l'avenir, pour demain heureux. Qu'a-t-on fait à notre Ségolène? Ah, mais c'était une femme. On ne pouvait pas lui laisser le pouvoir. Même les éléphants ont tout fait pour la combattre. Quel dommage. Enfin, je suis en deuil. Salut.
Ça me saoule un peu d'entendre tout le monde qui dit 53% de connards en France. Moi, j'ai plutôt une petite pensée pour ceux qui se sont fait baiser la gueule et qui ont voté pour Sarkozy. Parce qu'il n'y a pas 53% de riches en France. Il y a plutôt des gens qui se sont fait embobiner et qui se sont fait baiser la gueule et qui... Peut-être que pendant ces 5 ans, on s'apercevra qu'ils ont fait une grosse connerie. Je connais même quelqu'un qui, le soir même, regrettait son vote. Donc, ça commence déjà. Et ces gens-là, qui ont voté Sarkozy, ils sont pas comme nous, où ils pourront dire qu'ils étaient du bon côté. Et j'ai une petite pensée pour ces gens-là, qui vont se retrouver du mauvais côté pendant 5 ans, et qui auront participé à la grosse débandade qu'on va se prendre en pleine gueule.
Voilà quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37, chers AMG, chers auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, et de France Inter réunis. Et des messages comme ça, il y en a des quantités, on ne sait plus trop quoi faire. On est un petit peu débordé avec le camarade Humbert, mais on fait face, on essaye de faire face et de vous faire entendre ce qui nous semble plus caractéristique de ce qu'il y a dans cette boîte vocale. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet sérieux. Nous, toujours en avance, là-bas, si j'y suis, toutes ces histoires de diversion. Bon, les Français ont voté, les Français ont choisi, et maintenant, on va appliquer les grands projets du nouveau président de la République, par exemple en matière de logement. Nicolas Sarkozy a été très précis en matière de logement, et ça tombe bien parce que c'était un des soucis premiers des Français après l'emploi. On pourrait penser que on a un peu oublié au cours de cette campagne très pipolisée, mais en fait, voilà, ce qui nous préoccupe, ce qui préoccupe les Français selon nombre d'enquêtes et de sondages, c'est d'abord l'emploi. Ensuite vient le niveau de vie et en même temps vient la question de l'habitat et du logement. Alors avec Olivia Gesbert, eh ben on s'est penché un peu sur ce sujet et au regard évidemment de ce que le président Sarkozy donc a promis et envisage. Donc on va voir avec des gens qui sont sur le terrain, par exemple une petite association qui s'appelle Jeudi Noir. Vous allez savoir ce que c'est que Jeudi Noir, pourquoi disent-ils Jeudi Noir, et pourquoi d'autres disent jamais sans toi auparavant. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chamsoudine, 7 ans et demi, c'est le fils de nos amis tchétchènes qui n'ont pas encore de papier et qui sont depuis 6 ans en France. Il a fait une grave chute la semaine dernière et lundi matin, je l'ai amené en urgence voir un ostéopathe. Et je l'ai gardé la journée. Il s'est mis à dessiner, il a fait quelques dessins et puis il a voulu me les donner. Et je lui ai dit, mais non, tu les gardes pour ta maman. Et il m'a répondu, tu sais, on ne sait pas si on va pouvoir rester en France. Alors t'as qu'à les garder, les dessins. Ça te fera un souvenir de moi.
Ce message est pour la voix masculine qui nous rappelait qu'avec 53% des suffrages, la démocratie avait fonctionné et que le scientifique qu'il était nous le rappelait. Monsieur, personne dans ce répondeur, sauf animosité névrotique, ne conteste la démocratie. Nous essayons de comprendre, au regard d'une certaine réalité sociale et économique, comment et pourquoi ce scrutin ne semble pas représenter l'intérêt du plus grand nombre d'entre nous. Un raisonnement chiffré pour vous, monsieur le scientifique. Un tiers de l'électorat a donc plus de 65 ans. Trois quarts de ce tiers ont voté UMP, soit à peu près 10 millions de votes. Sur les 19 millions de l'UMP, c'est un gros noyau, plus de la moitié. Or, ces 10 millions de citoyens ont en commun d'entendre, de lire l'actualité à travers le filtre de leur vécu. Soit les 30 glorieuses. Ils lisent l'actualité avec des lunettes de 1970 où le plein emploi scintillait. Ils entendent l'actualité en différé et ils pensent être en direct. La valeur travail, maître mot de l'UMP, a donc été plébiscitée par 10 millions de citoyens hors marché du travail. Ils ne sont plus dans l'arène et c'est pourtant eux qui décide de l'issue du combat. Monsieur, je ne suis pas scientifique, mais je suis à la tête d'une PME. Merci. Bonjour à tous.
Bonjour Daniel. Je viens d'écouter l'émission et je tiens à rassurer l'auditeur qui revenait de Tunisie avec un groupe de vieux qui avaient tous voté Sarkozy. J'ai 83 ans, j'ai passé ma vie à lutter et dans mon quartier, beaucoup de vieilles n'ont pas voté Sarko et nous sommes prêtes à continuer la lutte, selon nos forces bien sûr. Et nous craignons beaucoup Sarko et sa cour. À bientôt.
J'appelle aujourd'hui le répondeur de là-bas si je suis parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, en tout cas pas sans rien dire. En Haute-Savoie, il y a le plateau des Glières, vous connaissez tous. Et Nicolas Sarkozy aussi connaît. Et vendredi, là, ce vendredi, juste avant les élections, il y a des résistants aux Savoyards qui ont appris que le candidat Sarkozy était monté au plateau des Glières. Vous en avez peut-être entendu parler, il y avait pas mal de micros et de caméras autour de lui, on a même refait le chemin pour ça. Alors que Sarkozy récupère leur histoire, ça leur a été vraiment insupportable, aux résistants. On a encore reçu un mail tout à l'heure d'une résistante de 95 ans qui trouve ça vraiment inadmissible. Parce que Sarkozy, dans son programme, il ne fait que tourner le dos à tout ce que le Conseil national de la résistance a mis en place au sortir de la guerre. Et ça pour des visées électorales. Alors en réponse à cela, puisque Nicolas Sarkozy veut en faire sa roche de sous-lutré, nous appelons un rassemblement pique-nique citoyen sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, ce dimanche 13 mai à midi, pour dire non, monsieur Sarkozy, les combattants des Glières ne sont pas récupérables. Voilà, c'est de la part des résistants et de citoyens de part et d'autre, d'un peu partout, de Haute-Savoie. Alors, à dimanche.
13 mètres carrés, 530 euros. Idéal étudiant, très bon état, blablabla.
C'est déjà pris, je suis désolée.
On peut avoir un monde de l'immobilier qui marche formidablement bien et une crise du logement tout à fait sérieuse. Les deux sont parfaitement compatibles et je pense qu'on est pas loin de ça.
410 euros, 11 mètres carrés, c'est possible de le faire un peu moins cher ou pas ?
Non, c'est pas possible.
D'accord, c'est pas un négociable. Je vous rappelle, au revoir.
L'immobilier, n'oubliez jamais que c'est le seul endroit accessible où quand on a peu d'argent, on vous prête de l'argent et vous pouvez constituer véritablement un capital et devenir un petit capitaliste.
Excusez-moi, je vous ai rendu un appel à propos de l'annonce parue dans le PAP de la France des cours en location.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis avec Olivia Gesbert. Jamais sans toi.
Flight number 2, arriving from New York.
Le logement n'est pas une spéculation. C'est parti. On arrête. On a besoin de dormir, pas de faire du fric.
Ça fait 10 ans que les prix ont pris 100%. Et qui est-ce qui paye cette bulle immobilière? C'est les locataires.
Comme tout le monde.
Aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on régule ce marché immobilier, soit on continue à jeter de l'huile sur le feu. On fait les prêts à 50 ans, on fait des défiscalisations. Et nous, c'est pas ce qu'on veut.
Répétez la bulle.
On est donc au salon de l'immobilier et il y avait actuellement une conférence dans une des salles du Palais des Congrès de la Porte Maillot. Conférence qui est interrompue en ce moment par les militants du groupe Jeudi Noir. Jeudi Noir, c'est un collectif qui se bat contre la spéculation immobilière. Et tandis qu'on est en train de parler de l'état du marché entre professionnels de l'immobilier, les militants de ce collectif sont intervenus pour tenter de secouer un peu les choses et de faire bouger les idées.
Maintenant, tout le monde danse! Et tout le monde danse! Levez-vous pour la ville immobilière!
Allez!
Messieurs, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ?
Bien sûr.
Qui vous demande ?
Je suis un agent immobilier des Yvelines. Bien sûr qu'on comprend, mais c'est un vrai problème public et un vrai problème de débat. Et je pense que les intervenants, aujourd'hui, on est tous victimes effectivement des chiffres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal. C'est que des chiffres, mais sur le fond, il y a une action légitime. Et je pense que les indépendants, agents immobiliers, on est là effectivement pour amener une régulation du marché, mais... Ce n'est pas l'immobilier, ce ne sont pas les propriétaires bailleurs qui font augmenter le marché, c'est l'économie, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est une fatalité, mais c'est ce qu'on doit répondre à ceux qui ne peuvent pas se loger aujourd'hui.
C'est pas malheureusement aux professionnels de l'immobilier de répondre, C'est une politique, à mon sens, nationale, d'apporter effectivement du logement et l'accessibilité au logement pour tous.
Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que ce ne sont pas les agents immobiliers qui font augmenter les prix des loyers. Ça faut, c'est un premier point sur lequel déjà il faut bien insister. Deuxième point, ouais, quand j'entends ça, c'est pas très sympa de dire ce genre de choses, ce que dit le jeune homme là.
Ce qu'il vient de dire.
Les agents sont au bord de la faillite, etc. Je vois pas le rapport avec le problème du logement, qui est un vrai problème. Donc, on est chambre syndicale Paris Île-de-France.
Les agents immobiliers ou des grandes maisons comme la FNEM profitent aussi de cette situation, sans mettre plein les poches au passage.
Mais non, on ne profite de rien, on est un métier de service. Quand vous allez voir un docteur, quand vous allez voir votre pharmacien, enfin je veux dire, on est un prestataire de service. C'est pas la faute de l'agent immobilier. L'agent immobilier, c'est un métier reconnu, c'est un métier effectivement au service des gens, tout simplement.
Mais quand je vais voir mon médecin, les prix sont fixes de la consultation.
Mais chez nous aussi.
Vous estimez qu'il n'y a pas de spéculation aujourd'hui ?
Non, je ne pense pas que le propriétaire bailleur spécule. La spéculation, elle est faite simplement par rapport à un marché financier, tout simplement.
Ne achetez plus rien ! Le logement n'est pas une spéculation !
Non,
le logement, c'est... Non.
Je vous rappelle, au revoir.
Animation, agitation à ce salon de l'immobilier qui se tenait du 22 au 25 mars dernier. Et on entend, on voit les agents immobiliers, la main sur le cœur, dire qu'ils n'y sont pour rien, qu'il s'agit d'une part d'un vrai problème public, d'un problème politique, et d'autre part d'une affaire de spéculation, alors que bien sûr, les militants d'associations comme Jeudi Noir, le DAL, etc., eux pensent que le logement, c'est un droit, et c'est un droit pour tous. Alors, quelques chiffres avant de commencer à des chiffres qu'il faut, qu'il est précieux, je crois, de rappeler en matière de logement. Ça va être un des grands chantiers. Vous avez entendu notre nouveau président qui a des projets, qui va faire de chacun de nous des propriétaires. Nous serons une France de propriétaires. Et il faut rappeler quand même peut-être quelques chiffres. Quelques chiffres qui ont été récemment diffusés par la Fondation Abbé Pierre. Parlons des SDF, parce que voilà, des gens qui n'ont pas de logement du tout. Selon l'INSEE, ils sont environ 86 000, dont 16 000 enfants. Ce sont des estimations sous-évaluées, probablement, mais on va se tenir à ce chiffre-là. Il y a en France 1 million de personnes qui sont privées de logement personnel. 150 000 qui vivent dans des centres d'hébergement, 200 000 qui vivent dans des abris de fortune, des caves, des locaux divers et variés, des box, des garages. Vous vous souvenez aussi qu'on avait, justement avec Olivia, fait un reportage sur des gens qui vivent dans des campings à l'année. Eh bien, ils sont environ 100 000 en France et environ 600 000 personnes habitent des chambres d'hôtel. Et à cela, il faut ajouter 1 million de personnes hébergées chez des tiers, dont 150 000 vivent dans des conditions très difficiles. Bref, au total, 3 millions de personnes en France sont sans logis ou mal logés. 3 millions de personnes en France sont sans logis ou mal logés. Quelles sont les réponses qui sont faites à ce grave problème social ? On va les évoquer et on va voir que quelle est la validité du projet présidentiel au regard de ces différents activistes, on va les appeler comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, de leurs compétences et de leur point de vue. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, jamais sans toi.
J'ai vu la tour Eiffel.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
Le cul de la Mireille.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
J'ai vu le soleil.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
Le bout de tes orteils.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
Ce qui nous effraye.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
C'est ce qui nous émerveille.
L'as-tu vu, l'as-tu vu?
J'ai tu, il, nous, vous, il.
On a vu
des filles qui étaient belles.
On a vu
des comment tu t'appelles.
On a vu
des neiges éternelles.
On a vu
des qui étaient paternelles.
On a vu
des sourds qui étaient d'oreilles.
On a vu
des jours qui nous rappellent.
On a vu
on a vu ce qu'on a vu. Je te fais la courte échelle.
Si tu vois
des rires à l'appel.
Si tu vois pas
je te sors la grande échelle.
Si tu vois
que la vie est si belle.
Vois-tu pas
que tu marches sur elle.
Si tu vois
tu vois qu'on s'en sommeille.
Dis-le-moi
car je m'endors des fois.
J'ai tout vu.
On n'était pas pareil.
C'est foutu.
Tu gardes les séquelles.
J'ai tout vu.
Y'a quelqu'un qui m'appelle.
Et on verra ce qu'on a vu.
On boira ce qu'on a vu.
Et on chantera ce qu'on a cru.
On croira ce qu'on chante cru.
Et mon cul.
L'as-tu vu.
L'as-tu vu.
J'ai vu tu heal nous vous ailes.
Leïla, vous avez mis un peu le souk là dans une conférence, souk festif, dans une conférence au salon de l'immobilier. Ça parlait du niveau des prix de l'immobilier, donc c'est bien, tout va bien, les prix ne baissent pas trop, donc on peut continuer à investir, à spéculer sur l'immobilier.
Et donc, votre intervention a consisté à dire quoi?
À dire, n'oubliez pas que, vous, c'est bien, vous profitez de la pénurie, vous profitez de la hausse des prix, mais n'oubliez pas que du coup, il y a toute une partie de la population, toute une génération qui est exclue d'un truc tout simple qui s'appelle le logement, quoi.
Moi, j'ai parlé un peu aux agents immobiliers qui étaient là, ils me disent qu'ils n'en profitent pas.
Ils n'en profitent pas, mais comment ça, ils n'en profitent pas? Enfin, on sait très bien, aujourd'hui, on était au salon de l'immobilier, d'habitude, on fait des interventions dans des appartements, et on voit très bien qu'un propriétaire peut se permettre de louer une chambre de bonne à 600 euros, parce qu'il y a un tel décalage entre l'offre et la demande, et ils jouent sur la pénurie à fond.
Ils me disent aussi qu'il n'y a pas de spéculation.
Ils vont nous dire qu'en fait, ils perdent de l'argent. S'il n'y avait pas une telle pénurie, il n'y aurait pas ce problème-là. Les propriétaires ne pourraient pas se permettre de louer des apparts hors de prix et de vendre des apparts à ce prix-là. C'est sûr, construire, mais bon, là, il y a urgence. Et puis, il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. Il y a une taxe sur les logements vacants qui rapporte 10 euros par logement vacant. Il y a une loi sur la réquisition qui date de 45 qui n'est pas appliquée, alors qu'il y a 10% de logements vacants à Paris. Il y a l'État, les moyens, les outils de résoudre la crise du logement. Et bon, ils préfèrent contribuer à la spéculation plutôt que de résoudre vraiment le problème. Les solutions qui sont apportées, c'est des solutions qui sont là pour engraisser la spéculation, quoi. Que ce soit à gauche avec par exemple, Ségolène Royal parlait d'un bouclier logement. C'est-à-dire qu'un foyer ne dépense pas plus de 25% de ses revenus dans le logement. Mais ce n'est pas en limitant les prix, c'est en augmentant encore les aides à la personne. On a très bien vu que les aides à la personne, les APL, ça a plus contribué à l'augmentation des prix, à la spéculation, qu'autre chose. Parce que maintenant, un propriétaire, il peut se permettre de louer une chambre de bonne à 500 euros, justement, parce qu'il sait que la personne va avoir 150 euros d'APL derrière. Puis après, bon, ça, c'est du côté de la gauche, et puis du côté de la droite, c'est toujours exonérer de charges les placements immobiliers. Enfin, c'est que des solutions hyper inflationnistes. On dirait que c'est devenu quelque chose de tout à fait normal de vider le centre-ville de la population, quoi, de salariés, de citoyens lambda qui travaillent juste pour un salaire, qui ne demandent pas la lune, qui demandent juste à se loger, quoi.
Spéculation, flambée du prix de l'immobilier. 3 millions de personnes en France sont sans logis ou mal logées. Pour citer un chiffre, à Paris, 140 000 logements vacants. 140 000 logements vacants, vides et non occupés, alors qu'on a 110 000 demandes de logements sociaux. Donc on peut largement loger tous ces demandeurs de logements dans Paris. Mais et les lois s'y prêtent, mais elles ne sont pas appliquées. D'où la colère, d'où l'engagement, d'où le travail de ces différentes associations. Là, en l'occurrence, Jeudi Noir ou Droit au Logement. Jeudi Noir parce que le jeudi c'est le jour des annonces. C'est le jour où on fait des petites croix dans les colonnes des annonces et puis on se fait jeter parce que c'est évidemment beaucoup trop cher. Alors pourquoi pas un ministère, puisqu'on va dans quelques jours découvrir les nouveaux ministres, pourquoi pas un ministère de la crise du logement? Oui, il y en a eu un, vous savez, qui s'était constitué à Paris pour mettre en cause et pour interpeller pour ces graves questions. Après tout, le logement, la crise du logement, c'est une question aussi urgente et peut-être encore plus préoccupante qu'un ministère de l'identité française et de l'immigration, par exemple, au hasard.
On a beaucoup construit après la guerre. Dans les années 70, on pensait avoir à peu près résolu le problème de la crise du logement qui était causé par les destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait à peu près résorbé les derniers bidonvilles, enfin plus ou moins. Le problème, c'est qu'on a relâché l'effort public, il y a eu un désengagement de l'État. Et au fur et à mesure, dans les années 80-90, on n'a pas vu venir un problème démographique qui est la décohabitation des jeunes, qui est surtout la hausse des divorces, les familles où les enfants vivent dans deux endroits à la fois à cause des divorces, le vieillissement de la population, qui fait qu'il y a des vieilles personnes qui vivent toutes seules dans des logements assez grands. Et donc, comme l'État n'a pas construit assez, il y a eu un problème de pénurie qui s'est révélé à la fin des années 90, et là qui est rentré dans le débat public assez tardivement quand il y a eu des incendies d'hôtels insalubres, quand il y a eu la polémique sur... la crise des banlieues, les logements sociaux, la loi SRU, des choses comme ça. Et maintenant, on essaie de rattraper le retard, mais c'est un peu difficile, parce qu'on construit pas mal cette année, mais c'est des logements qui sont un peu trop chers, qui sont pas accessibles. Et c'est ça qui fait monter les prix, quoi. Quand il y a 15 personnes qui appellent pour louer un appartement, évidemment, le propriétaire est en position de force, et il peut louer plus cher, quoi.
La loi SRU, c'est quoi exactement ?
La loi SRU, c'est la loi de solidarité et renouvellement urbain qui impose aux mairies de construire 20% de logements sociaux. En fait, c'était une manière d'imposer aux villes riches de construire du logement social. Seulement, comme il n'y a pas de contraintes, ces mairies ne construisent pas.
Parmi les cancres de la loi SRU, il y a qui ? Il y a Neuilly, il y a Le Raincy.
Voilà, exactement.
Dans le 93, dans commune limitrophe à Clichy-sous-Bois.
Il y a Saint-Maur. Il y a Saint-Maur dans le 94, c'est des communes emblématiques.
Un maire qui ne veut pas de logements sociaux fait son calcul par A plus B et il a intérêt financièrement à ne pas faire de logements sociaux.
Pour qu'il y ait un vrai droit au logement opposable, comme on en a beaucoup parlé au début de l'année lorsque Jacques Chirac a émis le vœu que ce droit au logement opposable existe dans les faits, pour qu'il soit mis en place, il y a quand même d'abord, il faut passer par des solutions pratiques, construire plus de logements et notamment des logements sociaux à bas prix, réquisitionner des logements vacants, il y en a pas mal dans Paris.
Il y a 140 000 à peu près logements vacants à Paris, Paris intramuros. Donc, ce qui est énorme, hein, et je parle de logements, hein, c'est pas des bureaux. Par ailleurs, à Paris, il y a 110 000 demandeurs de logements sociaux. Donc on peut rapidement faire le calcul et se dire que réquisitionner des appartements serait plutôt une manière de résorber provisoirement la crise du logement que connaissent les demandeurs de logements sociaux et donc les gens les plus défavorisés.
Puis arrêter en partie aussi les expulsions qui ont repris là depuis le 15 mars, depuis la fin de la trêve hivernale, et puis qui n'arrangent pas vraiment la situation.
Ah bah, qui l'aggravent, hein. De toute façon, les expulsions, ça n'arrange rien du tout. Ça arrange simplement les marchands de sommeil, qui eux s'engraissent, puisque quand une famille est mise à la rue, évidemment, elle ne trouve pas forcément tout de suite un logement. Et avec l'aide des services sociaux et de l'État, ces familles sont installées dans des hôtels, souvent pourris. Donc voilà, les expulsions profitent uniquement à ces marchands de sommeil-là, et voilà, c'est tout. Évidemment, pas aux familles qui se retrouvent à la rue.
Alors la crise du logement, c'est un mot qu'on entend depuis des décennies. Il faut rappeler quand même que la construction a repris depuis quelques années. 438 000 logements ont été mis en chantier en 2006, alors qu'on n'en avait que 303 000 en 2002. Mais il manque encore 800 000 logements et il faut plus de 300 000 logements nouveaux par an si l'on veut bien tenir compte, et on doit tenir compte évidemment de l'évolution de la société et de la démographie. Et en vérité, les logements mis en chantier sont destinés aux ménages des couches moyennes pourraient se loger sans sans aide. Et en vérité, jamais la construction de logements destinés à des ménages à revenus modestes n'aura été aussi faible qu'aujourd'hui. C'est quand même des notions importantes, des choses importantes à avoir présentes à l'esprit. Alors, il y a bien sûr, on vient de l'évoquer, la période terrible du 15 mars, c'est-à-dire le moment des expulsions. Il faut rappeler qu'il y a 100 000 ménages locataires qui, chaque année, et en tout cas ces années dernières, qui ont fait l'objet d'une décision d'expulsion, et les interventions de la force publique pour les expulsions ont doublé depuis l'année 2000. Pour preuve, Josiane, que nous rencontrons avec Olivia, elle s'appelle Josiane Massonnerie, c'est son nom. Elle habite dans le 20e arrondissement, dans un appartement de 50 mètres carrés, et Josiane est expulsable.
Asseyez-vous.
Merci.
Allez-y. Vous êtes ici chez vous.
Je m'appelle Josiane Massonnerie. J'habite 32 rue des Ormeaux, le 20e. Voilà, je suis dans une situation délicate par rapport à un licenciement abusif. Donc les petites économies que j'avais auparavant sont tombées, sont vite parties en fumée.
Vous êtes menacée d'expulsion ?
D'expulsion. Oui, je suis menacée d'expulsion le 1er avril. Donc, d'un moment à l'autre, j'attends les huissiers.
C'est cet appartement que vous devriez quitter, oui, si l'avis d'expulsion est mis en œuvre. Vous y êtes depuis combien de temps dans cet appartement ?
13 ans.
13 ans ?
13 ans passés.
C'est des propriétaires privés ici ?
Oui, hein, ce sont des propriétaires privés. Donc là, vous avez la cuisine, bon, le salon, le balcon...
Vous êtes au 9e étage.
9e étage.
Oui, sur les toits.
Oui. Voilà, donc c'est séparé par un paravent, mais enfin bon. Donc j'ai une petite surface de 52 mètres carrés.
52 mètres carrés ?
Oui.
Ça sent l'eau de Javel ?
Oui, toujours. Je mets toujours de l'eau de Javel partout, même sur les vêtements. Croyez-moi que je fais hyper attention à tout. Et quand j'ai des fleurs comme ça, j'ai été au bois de Vincennes, j'ai cueilli quelques chonquilles, quelques narcisses. Et puis l'autre jour, dans un square, j'ai pris une branche de fleurs. Et puis j'essaie de me faire des bouquets comme ça, pour pas que la maison soit trop triste. Et c'est vrai, hein, j'essaie de garder tout ça, mais bon, je suis complètement effondrée, quoi.
Mais c'est-à-dire que c'est encore chez vous, quand même.
C'est chez moi.
Ouais.
C'est 2 mois de sursis que je vais avoir, hein, pas plus. Hein. Mais moi, je comprends très bien que ma propriétaire veuille reprendre le logement. Je le comprends, Madame Legros, elle m'en veut pas. Mais bon, au bout d'un an et demi, là maintenant, je paye un tiers du loyer. Et avec 800 euros, j'essaie de payer un tiers du loyer, l'EDF, le téléphone, la nourriture, faire face.
En août 2005, donc, vous avez été licenciée. Vous faisiez quoi ?
Les robes de mariée, je vendais des robes de mariée, des robes de cocktail, voilà. Oui, un petit peu plus de 10 ans. Ben, il s'est passé qu'au départ, on m'a dit que j'étais absente, que je m'en allais souvent. Je quittais le magasin comme ça, sans aucune raison. Quand j'ai pu me remettre debout, j'ai commencé à aller rechercher du travail. Bon, déjà, il y a mon âge qui bloque. Au début, quand je suis rentrée, on m'appelait la chouchoute parce que je travaillais bien. Peut-être mieux que les autres, je faisais plus de chiffres. Et c'est un monsieur qui est toujours l'argent. Et un jour, il m'appelle, il m'a dit, vous êtes fatiguée, le chiffre, il baisse. C'est pas vrai, c'est pas possible. Peut-être que la jeune femme qui m'a remplacée était plus performante que moi à la fin, et puis peut-être lui coûterait moins cher. C'est vrai que des fois, j'avais quand même un très bon salaire.
C'est quoi un très bon salaire ?
Ben, je pouvais aller jusqu'à 1 800 euros. Enfin, pour moi, pour une vendeuse, c'est pas mal.
C'est-à-dire que vous aviez en net sur
en
le...
1 200 euros, et tout le reste était de main à la main. Voilà les résultats, voilà les remerciements.
Le remerciement, c'est donc en août 2005, voilà, parce que vous n'étiez plus vraiment performante.
Ben, peut-être. Peut-être, oui.
D'après lui, à ses yeux, bah, vous avez été licencié. Alors, entre-temps, vous avez entamé une procédure, vous êtes allé au prud'homme et vous avez gagné.
Parce que je me suis réveillée un peu tard.
Vous avez ce loyer, cet appartement. Le loyer est de combien ?
980 euros et j'ai 800 euros d'assédic.
Donc, vous avez un loyer supérieur à, à vos revenus.
Bien sûr, donc je suis Banque de France.
Mais vous avez reçu un jugement d'expulsion ?
J'ai reçu mon jugement d'expulsion, oui. Bon, ben, je crois que le dossier d'expulsion doit être là. Ça, c'est... Voilà, on m'a donné... Ah, voilà.
Alors ça, elle est arrivée quand, cette lettre ?
Il y a 2 mois. Voilà, donc je les attends. Et le jour que ça sera tombé, ben, voilà, il faudra que je mette mes meubles dans une cave et puis que je parte.
Mais tout ça va changer. Mais oui, tout ça va changer puisque nous avons un nouveau président de la République, vous l'avez entendu, qui en matière de logement va faire de nous tous, Françaises, Français, des propriétaires. Ce dont doute un peu, et oui, il y a encore des gens qui doutent, quelqu'un comme Manuel de l'association Jeudi Noir. Alors, avec Olivia, Gesbert, ils se sont mis tous les deux devant un ordinateur. Et ils ont été chercher le site de campagne du candidat Sarkozy. Et voilà ce que ça a donné, les réflexions et les observations de Manuel de Jeudi Noir face au candidat Sarkozy.
Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? C'est de pouvoir permettre, y compris aux revenus modestes et moyens, d'être propriétaire des logements. Et de considérer qu'il n'est pas anormal que la France ait autant de propriétaires que d'autres pays en Europe, notamment la Grande-Bretagne. Il n'y a aucune raison que nous soyons condamnés à la fatalité de ne réserver la propriété qu'à ceux qui ont les moyens.
Alors... Stop. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ?
On peut rêver que tout le monde ait un logement. Et si on a un rêve, si on a une priorité politique, c'est qu'il n'y ait plus de SDF. Alors, il y a 6 millions de personnes qui sont en situation de précarité de logement, et il y a 1 million de personnes qui n'ont pas de domicile à eux, donc qui vivent chez des amis, qui vivent à la rue, qui vivent en hébergement, dans des campings. Et Sarkozy n'a pas tellement de mots pour eux. Est-ce qu'on met l'accent sur les classes populaires ou sur les classes moyennes supérieures ? Et là, il y a un vrai clivage politique, quoi. Et Sarkozy fait croire aux pauvres qui vont accéder à la propriété. Et c'est tout le défi qu'a réussi à relever Sarkozy, d'avoir un programme pour les riches qui fait adopter aussi par les pauvres.
Dans cet extrait, Nicolas Sarkozy fait référence à la Grande-Bretagne.
Mais alors, il prend exemple sur Thatcher qui a vendu énormément de logements sociaux quand elle était au pouvoir. Et lui, c'est ce qu'il a voulu, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a fait dans les Hauts-de-Seine. Or, aujourd'hui, le parc social il stagne à peu près. Le nombre de logements sociaux disponibles chaque année baisse. Il était de 500 000 il y a quelques années, il est de 400 000 aujourd'hui. Donc ce que les collectivités locales peuvent proposer aux gens qui sont dans la galère et qui cherchent un logement, c'est 400 000 logements chaque année. Si on en vend une partie, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux gens qui sont précaires ? Pas grand-chose. Ceux qui vont être vendus à leurs locataires, c'est les meilleurs HLM, ceux qui sont dans les beaux quartiers, ceux qui ont été rénovés, etc. etc. Et donc, ne va rester dans le parc HLM que le parc pourri dans les quartiers périphériques, une manière à les cacher de la société. Et son cœur de cible, c'est les gens qui peuvent devenir propriétaires. C'est pas du tout ceux qui sont en galère de location.
Le choix entre être locataire et être propriétaire doit être garanti. Parce que la propriété, c'est la meilleure des protections contre la précarité.
Ouais, stop, hein, parce que c'est un peu un poncif de dire que la propriété, c'est une protection contre la précarité. C'est vrai quand on est vraiment propriétaire à la fin du remboursement de l'emprunt, mais pendant 15, 20 ans, parfois maintenant 30 ans, peut-être même bientôt 50 ans, on n'est pas du tout en situation de sécurité financière, puisqu'il faut rembourser 1000, 1500, 2000, 3000 euros chaque mois, et que chaque accident de la vie, un divorce, un licenciement, peut mettre en danger la possibilité de rembourser ça. Donc c'est pas vrai que l'accession à la propriété va sécuriser les gens, enfin, ça peut aussi les mettre en danger. Donc ce que dit Sarkozy, c'est pas tout à fait vrai, quoi. De toute façon, la propriété, c'est un vieux rêve de la droite, en pensant que si les gens deviennent propriétaires, ils vont réfléchir comme des petits capitalistes et ils vont pas remettre en cause l'ordre existant, etc., etc. Et qu'ils vont avoir une sorte de morale individualiste. Seulement, on voit bien que les pays où les gens sont très propriétaires, comme l'Espagne, sont aussi les pays où il y a la plus grave crise du logement, parce que le marché de la location est très restreint. Donc quand on est jeune en Espagne, on a beaucoup de mal à avoir accès à la location parce que tout le monde est propriétaire. Or, quand on est jeune, à moins d'être héritier ou d'être un cadre supérieur, on peut difficilement faire un emprunt et avoir accès à la propriété. Donc c'est très difficile. La propriété n'est pas forcément un indicateur de richesse ou de bien-être.
L'hôtel Marina del Beach, lui aussi de 3 étoiles, dispose de 51 chambres doubles avec de grandes terrasses. Dans le même immeuble se trouve un magnifique centre commercial.
Retour au salon de l'immobilier de cette fin mars. Et là, vous allez voir qu'il y a des pays, il y a des exemples nombreux qui répondent à cette aspiration que nous partageons tous, d'une aspiration à la propriété, à avoir un toit, à avoir un chez-soi. Par exemple, vous pouvez, je ne sais pas si c'est dans les projets de Josiane, vous loger à Miami, en Floride. Ça peut être une issue pour certains d'entre nous.
Alors à ma droite, vente de villa à Marrakech, à ma gauche, vente de villa en Côte d'Azur, et devant moi, le plus appétissant, vente de villa ou d'appartement à Miami.
Bonjour.
Vous cherchez à acheter une maison à Miami, c'est ça, ou un appartement?
Non, je cherche à investir, tout simplement.
Et ça pourrait être un bon investissement d'acheter quelque chose à Miami? Pourquoi pas acheter en France? Pourquoi acheter à Miami?
En Miami, c'est le climat, c'est très beau là-bas, il fait beau toute l'année.
Il y a l'avantage du dollar.
Oui, on paye en dollars, donc comme le dollar vaut 30% de moins que l'euro, voilà.
C'est comme un discount de 30% sur la valeur là-bas.
Alors, vous décidez d'investir dans un petit appartement comme celui qui passe là sur l'écran plasma. Donc vous allez acheter votre appartement à Miami, et là-bas vous allez faire quoi? Vous allez le louer?
Voilà.
Si on faisait un petit calcul financier pour voir, vous allez essayer de nous convaincre que c'est un bon investissement. Merci, on fait ça?
C'est pour le plaisir. Vous achetez, ça c'est un produit, vous avez tout dans le bâtiment, c'est extraordinaire. C'est gardien 24 sur 24. Concierge qui était toujours là-bas, sécurité partout dans le bâtiment, ascenseur privé directement dans l'appartement, restaurant, room service si vous voulez, dans votre appartement. En dollars, 6 400 $ le mètre carré pour un bâtiment vraiment 5 étoiles. 144 mètres carrés à partir de 780 000 €.
780 000 euros. Ça, c'est le prix du plaisir et de la sécurité.
Oui.
Alors, mettons, monsieur veut acheter le plus petit appartement. Je sais pas, vous faites quoi dans la vie?
Moi, je travaille dans la fonction publique.
Qu'est-ce qu'il doit vous donner comme garantie?
Pour acheter là-bas, il a besoin un minimum de 25% d'apport. Il avait son crédit sans question, sans verification.
Alors, 25% d'apport, ça fait à peu près 200 000 €.
Oui, pour un appartement de 780 000 €, oui.
D'accord. Voilà. Alors, vous avez ça, 200 000 €?
Peut-être, on ne sait jamais.
Ça, c'est le minimum pour lui. Il met comme il voulait, il paye cash. Ça, c'est bon pour vous. Si vous payez cash aux États-Unis, vous n'avez pas de frais notaires. La vie est belle, oui.
Mais donc, il faut avoir confiance dans le marché de l'immobilier américain. Il faut se dire que s'il veut le revendre dans quelques années, il va y gagner quelque chose.
C'est le même pour moi ici. C'est le même pour moi ici. Ouais. Moi, je trouve les choses qui passent ici, c'est incroyable. Parce que si je suis propriétaire d'un appartement à Paris, je mets quelqu'un là-bas, il loue, il paye tous les mois et il arrête de payer. Pour mettre dehors, c'est impossible. Qu'est-ce que je fais? Il reste là-bas de temps en temps, 2-3 ans, oui, sans payer. Mais c'est mon appartement, mais je n'ai pas le droit de mettre quelqu'un dehors dans mon appartement. Pour moi, c'est incroyable.
Alors qu'aux États-Unis, si on ne paye pas son loyer?
Si vous ne payez pas les loyers, après 5 jours, il y a une pénalité de 10%. Après 2 semaines, vous avez le droit de mettre dehors avec la police.
Il n'y a pas la trêve hivernale, ce qu'on appelle en France la trêve hivernale aux États-Unis. Vous savez, jusqu'au 15 mars, pendant l'hiver, on ne peut pas expulser quelqu'un.
Le contract se dit, vous payez le premier de tous les mois. Si vous ne payez pas, j'ai le droit de mettre dehors.
Oh, bah, c'est le monde idéal, vous voyez?
Voilà.
C'est le bonheur à Miami.
On pense aussi aux plus petits.
Voilà, mais oui, c'est le monde idéal. Voilà notre avenir. Voilà ce qu'il faut. Il faut de la poigne. Il faut des décisions fortes, décomplexées. Abat la cistana. Abat l'égalitarisme. Abat ces lois de protection, etc. Il faut tourner cette page-là. Voilà. Et que devient Josiane dans son appartement, attendant comme 100 000 100 000 foyers français, son expulsion.
En fait, de recevoir cette lettre, c'était concrètement de réaliser que vous alliez devoir partir et quitter cet appartement.
J'arrive pas. Non, parce que on sait pas où on va. Et je crois qu'il faut pas que je me fasse d'illusions. Je crois pas.
Parce que vous avez demandé quoi? Un logement.
Ah oui, un logement social. Moi, ça fait un an et demi qu'ils connaissent mes dossiers à l'OPAC. L'OPAC m'a répondu l'autre jour, est-ce que vous avez des enfants en bas âge? J'ai à 59 ans bientôt, vous osez demander ça? La mairie du 20e ne reçoit plus. Voilà, donc on m'a demandé de faire des dossiers de transparence à la mairie du 20e. J'en ai fait 4 et à chaque fois, Monsieur Duchemin Daniel répond qu'il y a tant de demandes de logement et qu'on ne peut en octroyer que tant. Et voilà, quoi, c'est...
Mais ça fait combien de temps que vous demandez un logement social?
Ben moi, je l'ai demandé pendant 18 ans et jamais, 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 j'ai eu une réponse.
Ça, c'est un courrier, en fait, qui a été déposé, qui vous a été envoyé par le cabinet du maire de la mairie de Paris, en fait, où vous avez dû faire une demande de logements sociaux. Il vous dit, je dois tout d'abord vous informer que la politique municipale volontariste de construction de nouveaux logements et d'acquisition de logements existants a permis de financer d'avril 2001 à décembre 2005, plus de 18 600 logements. Cependant, le nombre de demandes est encore malheureusement très supérieur au nombre de logements disponibles. Cette commission procède à la sélection des dossiers sur des critères objectifs. Elle accorde une priorité d'accès au logement social, soit aux ménages démunis, c'est pas votre cas, aux familles comportant des personnes handicapées, c'est pas directement votre cas, aux jeunes ménages, c'est pas non plus votre cas, ainsi qu'aux habitants de logements insalubres propices au saturnisme ou faisant l'objet d'opérations d'urbanisme, de sinistre ou de péril. C'est pas votre cas.
De disponibles, il y a des logements disponibles, mais pas pour des gens comme qui sont seuls.
Vous avez essayé de rechercher un appartement, un autre appartement?
Oui, bien sûr. J'ai même fait des agences en demandant s'ils connaissaient des propriétaires ou voilà, j'avais tant de chômage, j'aurais l'APL, s'ils avaient une chambre de bonne ou un studio. Non, non, ça a toujours été... On vous écrira, on vous téléphonera, mais j'ai eu aucune réponse. Oui. Je peux rien faire pour vous. J'ai demandé de l'aide quand j'étais au chômage. Ma mère m'a répondu « chacun sa merde ». Moi, au tribunal, j'ai rencontré un couple qui avait à peu près 50 ans. Il me dit, ça fait 2 ans que nous sommes à l'hôtel. Ils ont été expulsés. Il m'a dit, mais pourquoi on ne se tient pas l'écoute, qu'on ne se transmet pas les téléphones? Et c'est vrai. Il m'a dit, jamais quitter son logement, parce que quand on vous met dans un hôtel, c'est fini. C'est fini. Des gens très bien, très très bien. Mais où on va nous mettre, où on va me mettre? On m'a tout retiré. Ma dignité, ma... Je pense pas franchement qu'on va nous donner un logement parce qu'il y aura tel président ou telle présidente, j'y crois pas. J'y crois pas, on va pas faire monter des logements comme ça du jour au lendemain, on va pas... des bureaux qui sont isolés, où il y a personne dedans. Ça suffit pas, on est trop de gens dehors. J'ai rencontré des chambres l'autre jour. J'ai rencontré une dame avec sa fille de 20 ans. Et aussi une dame comme moi. Ça fait un an qu'elle est à l'hôtel avec sa fille. Elle travaille. Pourquoi on me donnerait un logement à moi?
Un mur, un toit à soi, c'est ça la dignité, non?
Oui. Oui. Oui.
Merci à Josiane Massonnery. C'était un reportage d'Olivier Gesbert. Merci également à Manuel et Leila du collectif Jeudi Noir, à Julien Boucher de Macaque. On le retrouvera demain. Merci à Edwige Dudal. À lire Le scandale du logement de Marie-Noëlle Lindemann aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. Et puis, vous connaissez évidemment l'hebdomadaire Politis. Eh bien, sachez qu'à partir de dorénavant, à partir de tout de suite là maintenant, l'hebdomadaire Politis a créé un observatoire du 6 mai. L'Observatoire du 6 mai qui interviendra publiquement à chaque fois que le nouveau président ou son futur gouvernement annoncera une mesure susceptible de porter atteinte à la liberté ou à la dignité humaine d'enfreindre l'esprit de justice ou d'aggraver les inégalités sociales. Ces alertes seront diffusées dans les colonnes de Politis et sur le site du journal, notez bien, www.politis.fr. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Rémi Quincé. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de là-bas, j'y suis, au 01 56 40 37 37.